Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue sur le Comics Weekly, l'émission qui chronique les dernières sorties comics VO de la semaine. Nous sommes le jeudi 7 novembre et au sommaire de ce 169e numéro, nous parlerons bien sûr de Marvel avec la sortie de la nouvelle série régulière X-Men Amazing X-Men. Nous parlerons aussi Event avec le début de Cataclysm ainsi que la suite d'Infinity dans les pages de Mighty Avengers. Du côté de l'indé, pas mal de nouveaux projets nous intéresseront, Painkiller Jane qui fait son grand retour, ainsi que le retour d'un des frères Luna dans sa série Alex plus Ada. Et enfin, chez DC, là encore une fois, les events seront au centre de nos attentions, avec des tie-in à Zero Year, ainsi que Forever Evil ou les retombées de Lights Out. En fin d'émission, nous parlerons TPB, avec une très longue liste de sorties cette semaine, ainsi qu'un petit bonus pour préparer les cadeaux de Noël, période qui approche à grands pas. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi cette semaine pour vous présenter toutes ces nouveautés, Flo.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices.
Et Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et à tous.
Nous sommes entre poilus.
Ouais, tout à fait.
Je suis pas très poilu.
Eh bien, tant pis pour toi, parce que nous allons parler d'un homme à poil. Il s'agit bien sûr de Nightcrawler au sommaire de ce Amazing X-Men numéro 1. J'allais dire Amazing Spider-Man, je sais pas pourquoi. L'habitude, sûrement. Amazing X-Men numéro 1, scénarisé par Jason Aaron, dessiné par Ed McGuinness. Première partie d'un arc en 5 pour cette nouvelle série régulière qui voit le retour de Nightcrawler. Alors, ce n'est pas un spoil, hein, c'est déjà sur la cover, ça a été annoncé maintes et maintes fois, c'était teasé dès la fin de Battle of the Atom. Si vous le savez pas, si vous avez vécu dans une grotte. Et je dois dire que ce premier épisode m'a sacrément séduit, en fait. J'ai vraiment plongé dedans dès le départ. Alors, on retrouve un Nightcrawler tel qu'on l'aime, vraiment superbement bien mis en image par Ed McGuinness. Nightcrawler se retrouve au paradis. En même temps, il est tellement gentil et c'est un homme de foi, donc forcément au paradis. Mais le paradis ne va pas rester calme bien longtemps puisque va débarquer son papa, qui a décidé de prendre le contrôle du paradis, tout simplement. Son papa, c'est Azazel, hein, pour ceux qui auraient oublié. Voilà grosso modo ce qu'on va dire.
Ouais, Azazel qui est avec toute une bande de bamf rouges machiavéliques. Mmh. Et, on a droit à des scènes assez sympas, avec un côté très piraterie. Toute une imagerie pirate qui est assez amusante.
Nightcrawler classique, déjà, avec ses sabres, tel qu'on l'a bien connu, notamment à l'époque d'Excalibur. Donc, effectivement, avoir son père qui est une sorte de clone de lui-même, pourquoi pas avec des sabres lui aussi, et justement jouer sur toute cette imagerie, c'est vachement bien trouvé, je trouve.
Donc, graphiquement, comme tu dis, c'est vraiment très très bon, y a pas mal d'humour. Donc, on voit que c'est écrit par Jason Aaron, puisqu'il y a quand même beaucoup de. Une grosse partie du comics qui se passe à la Jean Grey School. Comme ça, c'est bien cohérent avec Wolverine and the X-Men et compagnie.
Avec l'arrivée d'une nouvelle rousse en tant que professeur.
Ouais.
Ça aurait pu être un numéro de Wolverine and the X-Men.
Tout à fait.
Bien sûr, oui, complètement. Ouais. Les scènes avec Firestar m'ont bien fait marrer, quoi. On voit ça nous représente l'école, si on connaissait pas trop l'école Jean Grey, ça nous la présente la meilleure façon possible, c'est-à-dire une école de tarés, quoi.
C'est ça. Et c'est vraiment très, très vivant, il se passe pas mal de choses. Un bon mélange d'action et d'humour, donc je suis d'accord avec toi, Steve, c'est une très bonne surprise, ce numéro 1. J'ai été séduit, moi aussi.
Flo ?
C'est vrai qu'on retrouve le fun des débuts de Wolverine and the X-Men, qu'on a un peu perdu et la série a pris un petit peu en lourdeur. On retrouve un peu ce fun-là, c'est vrai que les BAMF sont très rigolos. Plus mis en image par Ed McGuinness, ils sont vraiment, vraiment marrants, je trouve. Je trouve ça un peu... Si vraiment on devait être pinailleur, je trouve qu'il fait un travail légèrement moins bon que sur Nova. Mais ça reste quand même super cool. Très cartoony, très un peu... pas enfantin, mais c'est dans la lignée quand même de Nova, sur ce qu'il faisait sur Nova. Donc c'est très fun à lire et ça va parfaitement avec l'écriture justement pleine d'humour d'Aaron.
Non, en même temps, cool, à sa défense, il y a vachement plus de personnages à dessiner.
C'est vrai, c'est, ouais. vrai, c'est vrai. Pour sa défense, il y a pas mal de choses à dessiner. Ouais. Non, c'est très cool. Moi, le côté Azazel et le côté au paradis, j'étais moyen. Enfin, en fait, je me suis retrouvé dans le comics quand on est arrivé à la Jean Grey School, quoi. Le paradis, ça me tente moyen. Mais peut-être parce que je suis pas non plus un gros fan des X-Men, je connais pas très bien la continuité, donc Azazel, ça m'a pas précisément parlé. Voilà. Firestar non plus, Northstar non plus, voilà. Donc bon. C'est juste ça, mais c'est un côté continuité, personnage et tout, que où j'ai pas encore vraiment d'affinité avec eux, mais sinon c'est très cool à lire, ouais. C'est vraiment très cool.
Pour moi, en tout cas, ça a été un véritable plaisir de retrouver Nightcrawler dans les pages, dans des pages inédites surtout, et un bon Nightcrawler bien tenu. Je vais peut-être faire le troll, vous allez peut-être me tomber dessus, mais tant pis, je préfère nettement un Nightcrawler écrit comme ça que s'il avait été écrit par Bendis, parce que je sais d'avance que ça aurait été complètement foireux. Ah bah clairement, enfin je veux dire, là on sent le mec qui maîtrise et qui avait vraiment un amour pour le personnage et qui le fait revenir à ses racines. Ah voilà, c'est le Nightcrawler tel qu'on l'imagine quand on connaît un petit peu l'histoire des X-Men. Et je suis pas sûr que Bendis aurait pu capturer ça en fait. Au vu de ce qu'il a présenté sur les X-Men depuis qu'il y est arrivé. Voilà.
Oui, c'est vrai, on aurait peut-être eu un personnage plus interchangeable que là.
Tu allais dire, Bruno?
Ouais, je disais qu'en plus, j'ai bien aimé la représentation du paradis. C'est vrai que les héros qui disparaissent, là au moins on voit que bah, lui, il a fini au paradis. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier, mais enfin, chez Marvel, voilà, il y a l'enfer, il y a le paradis, il y a des démons, il y a des anges, et ils existent vraiment. Et donc en fait, quand un personnage est mort, il est pas vraiment disparu complètement. Donc c'est bien de remettre ça en avant. Et moi, j'ai trouvé ça cool. Et c'est logique du coup pour le faire revenir. Et donc ça, c'est bien.
On entend souvent les ennemis s'échapper de l'enfer, des gens s'échapper du paradis, beaucoup moins, en général. Ce que j'apprécie aussi, c'est finalement presque la non-représentation du paradis.
Oui, c'est très...
L'enfer, tout le monde se l'imagine, on va dire, on a tous une imagerie
de la lave.
Très judéo-chrétienne de l'enfer, mais finalement très
avec
proche.
Avec Satan, Saddam Hussein, tout ça.
Ouais, voilà, enfin le truc rouge avec du feu partout, de la lave.
Les gars de Miché.
À pointe.
Les sodomites.
Ou alors un truc noir, tu vois, enfin où il y a rien. Le paradis, c'est vraiment différent selon chacun, en fait, en fonction de ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas. Donc là, c'est vraiment très soft, on voit quasiment rien et chacun peut se faire sa propre idée de ce que c'est. En tout cas, le paradis, tout ce qu'on saura, c'est que ce n'est pas pour Wolverine. Apparemment, il n'aime pas trop. Non, franchement, très très bonne surprise. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais, franchement, en lisant ça, je me suis dit bon, allez, on va voir. Résurrection de Nightcrawler, il est pas mort depuis très longtemps. Est-ce que franchement, ça vaut le coup de le ramener? Écrit comme ça, ouais. Ouais. Moi, je suis totalement pour. J'adore.
Ouais. Le truc un petit peu, enfin, qui moi me fait un petit peu peur, c'est là, on sait que c'est un premier arc en 5 parties pour le retour de Nightcrawler. Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir ça dans une mini-série? Est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire un nouveau titre X-Men?
Ce que j'ai peur, c'est qu'il lâche un petit peu. Déjà, il s'est quand même pas mal relâché niveau qualité, Jason Aaron, sur Wolverine and the X-Men. S'il y avait besoin de faire une nouvelle série, j'ai peur que le prochain arc là de Wolverine and the X-Men soit un peu en dessous, parce qu'on sait que il marche pas mal à l'envie, quoi, Aaron. Ça se sent. Quand il s'éclate à faire un truc tout nouveau, c'est souvent très bon. Et après, bon, ça se tasse un peu.
Et Wolverine and the X-Men arrive presque à son 40e numéro, scénarisé par Jason Aaron, est-ce qu'il serait pas temps qu'il passe la main, surtout? Laisser le côté, le comic vraiment sur l'école, géré par quelqu'un d'autre, et puis avoir des scénaristes un petit peu tournants, un peu comme on a des headmasters et des headmistresses, finalement, pour l'école, et que lui se concentre sur cette série-là.
Ah bah, ça serait pas mal, parce que moi, je commence un peu à m'ennuyer quand même depuis quelques mois sur Wolverine and the X-Men. En tout cas, là pour le coup, il est inspiré, je trouve.
Donc je crois qu'on est tous unanimes, c'est un gros bail, hein, pour cet épisode-là.
Tout
ouais,
à fait.
Très bonne nouveauté, vraiment très très bien, et puis c'est très beau, c'est top.
Avec quand même quelques répercussions de Battle of the Atom qui sont disséminées là, donc si vous avez comme moi Zappel Crossover, vous aurez, et que vous savez pas trop encore ce qui s'est passé, bah, vous aurez quelques petites bribes d'informations sans forcément tout vous dévoiler. Ce qui est toujours intéressant pour rattraper sans être totalement spoilé si on veut aller se le rattraper un de ces quatre. On va passer à un autre event qui démarre maintenant, cette fois-ci c'est dans l'univers Ultimate. C'est forcément Bruno qui l'a lu, c'est Cataclysm The Ultimate's Last Stand numéro 1.
Voilà, donc c'est la petite mini-série Cataclysm. Il y aura aussi des mini-séries pour chacun des titres, que ce soit Ultimate, Spider-Man et X-Men. Mais là, ça, c'est la série principale. Donc, c'est scénarisé par Brian Michael Bendis avec Mark Bagley au dessin, donc une équipe qui se connaît très bien, puisqu'ils ont quand même fait plus de 120 numéros de Ultimate Spider-Man. Donc, déjà, ça fait plaisir de les retrouver. Donc là, on a Bagley, du coup, qui dessine Miles Morales, puisque c'est quand même assez centré sur l'expérience de Miles Morales, et sur sa première confrontation avec un Galactus géant qui arrive à New York. Et dès les premières pages, en fait, il détruit tout le New Jersey. Donc, on sent que ça va être le bordel. Donc, Miles enfile sa combi et se dit que il est peut-être pas de taille pour se battre contre une catastrophe comme Galactus. Et donc voilà, c'est vraiment le lancement de Cataclysm. Ça y est, Galactus s'en prend à la Terre. Les Ultimates vont devoir intervenir. C'est assez péchu. On voit qu'ils sont vite dépassés par les événements, puisqu'ils ont jamais été confrontés à un être comme ça aussi puissant. Par rapport à Galactus, c'est vraiment là, c'est vraiment autre chose, quoi. Et donc voilà, c'est vraiment le premier numéro de Cataclysm tel quel, et c'est une bonne lecture. Après, Bagley, je l'ai connu quand même un peu plus en forme. C'est pas non plus exceptionnel partout. Il y a un peu trop de splash page, donc ce qui fait que ça se lit vraiment très vite. Mais c'est un bon début pour cet event, et pour moi, ce sera un petit check it plus.
Rappelons que les splash pages ne sont pas demandés par le dessinateur, mais en général demandés par le scénariste. Hein.
Comme. Tout à fait, ouais.
Donc c'est quand même la faute à Bendis.
Bendis, depuis quelques temps, il est fan. Hein. Il en farcit de double splash page.
Il en a toujours fait, mais c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il se lâche, quoi. Totalement. Moi, j'ai quand même une petite question. Est-ce que pour quelqu'un qui connaîtrait peu, voire pas l'univers Ultimate, est-ce que ça, je vais pas dire un bon point d'entrée, mais est-ce qu'on peut aller voir ce crossover qui, en tout cas, devrait être une page assez importante pour l'univers Ultimate sans forcément être trop perdu?
Oui, carrément. Il suffit de savoir voilà que Spider-Man dans l'univers Ultimate, c'est Miles Morales, qu'il est beaucoup plus jeune que Peter Parker. Et après, sinon, on retrouve les Ultimates qui sont quand même les équivalents de ce qu'on a dans le Marvel classique. En plus, là, le fait que Galactus débarque de l'univers Marvel classique, les héros commencent à se rendre compte que ce Galactus est un petit peu particulier. Donc, il y aura peut-être des liens avec ce qu'on connaît dans l'univers classique. D'ailleurs, peut-être qu'on aura à nouveau des personnages de l'univers Marvel classique qui viendront pour aider à donner un coup de main aux Ultimates, on ne sait jamais. Il y a déjà eu quand même Spider-Man qui a permis la rencontre entre Peter Parker et Miles Morales. Donc non, on peut le prendre comme un gros blockbuster un petit peu. Et voilà, je pense qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien, qui lisent du Marvel classique, qui se prendront un malin plaisir à lire ça, sachant que ça mettra fin peut-être à l'univers Ultimate. Donc voilà, ils seront contents de se dire que...
Bah, de toute façon, c'est justifié, j'ai envie de te dire, puisque s'ils n'arrivent pas à vaincre Galactus, c'est qu'ils sont faibles, c'est tout. La Terre les a repoussés, la Terre classique a repoussé Galactus, la Terre 616 depuis les années 60, un nombre incalculable de fois, donc s'ils n'y arrivent pas une seule fois, c'est que c'est des mauvais, c'est tout.
Ah, c'est vrai qu'ils seraient mauvais un peu. Donc non mais c'est un bon début, donc comme je dis, ouais, un check it plus, mais j'espère que ça va décoller par la suite dès le numéro 2.
On passe à la suite, c'est la sortie du troisième épisode de Mighty Avengers. Alors tu parlais d'entités absolument gigantesques avec Galactus, et bien là aussi, Mighty Avengers, toujours tie-in à Infinity, a son entité gigantesque quasi indestructible, c'est Shuma-Gorath qui avait fait son apparition à la fin de l'épisode 2. On va vous suivre le combat contre cette entité qui est finalement le vide personnifié. Voilà. Comment le résumer au plus simple ? Bon, combat, enfin, c'est la fin de l'arc, hein, clairement, donc l'histoire va s'arrêter là. C'est assez court pour un premier arc, c'est fun, il y a des touches années 70 dans la façon de raconter, notamment cette scène avec entre le Blue Marvel qui arrive, et qui est donc un espèce d'ersatz de Superman de façon Marvel, qui raconte tout comme si on était dans les années 60, quoi. C'est vraiment oui, alors je vais regarder oh, et on dirait qu'il y a des antiphotons en toi, mais peut-être que si je fais ça, ça va marcher, mais en même temps je suis pas sûr. Bah, vraiment la narration des années 60-70, quoi. Et c'en est drôle, justement, je trouve que c'est un bon petit clin d'œil bien assumé pour ce personnage qui est un petit peu hors du temps finalement de Blue Marvel. Ça pète de partout, c'est vraiment un gros blockbuster. Alors certains n'aimeront pas, de par ce côté un petit peu daté, de par aussi les dessins de Greg Land. C'est vrai que j'ai oublié de préciser les crédits, c'est des dessins de Greg Land et un scénario de Al Ewing. Moi franchement, ça m'a plu. C'est vraiment très sympa. On a ce Spider-Hero, je ne vais pas révéler qui c'est, même si aujourd'hui on sait, qui en connaît un rayon sur l'univers magique. Finalement, quand on sait qui c'est, ça paraît logique aussi. Et une partie de la solution arrive à venir de lui. Voilà, c'est fun, il y a des bonnes prises de bec entre Spider-Hero et Spider-Man, bien sûr. Non, franchement, ça se... enfin, vraiment, moi, j'ai pris plaisir à lire ça. Un bon premier arc, je trouve. C'est pas la série majeure. On est loin d'un Avengers de Hickman ou d'un New Avengers de Hickman. On va voir ce que ça va donner. Première partie d'arc, enfin, premier arc qui m'a séduit. J'ai envie d'aller voir la suite. J'espère que le public sera au rendez-vous, au moins pour maintenir cette série un petit peu, même si elle n'est pas dans le haut du classement. Donc pour moi, ce sera un bail.
En même temps, heureusement que c'est plus fun que les séries de Hickman, quoi. Enfin, bon, je vais pas faire mon troll, mais bon. Heureusement que on n'y va pas pour la même chose.
Je l'ai pas lu, mais est-ce que ça se termine?
Voilà,
on n'y va pas pour voir des schémas.
Tu disais, Bruno?
Ouais, non, je disais, est-ce que ça se termine le premier arc par Mighty Avengers Assemble?
Presque. Il y a toute une espèce de discours de Luke Cage sur la fin devant les médiacs. Un peu pompeux, mais je crois que c'est volontairement appuyé, ce discours pompeux. Bon,
j'avais bien aimé les deux premiers, moi, épisodes, et ça reste un peu sur la même veine, quoi.
Ah oui, complètement même. Complètement. Donc je pense que si t'as aimé les deux premiers, il y a peu de chances que tu n'aimes pas ce troisième épisode. Et j'ai hâte d'aller voir la suite, puisque la suite, on parlera justement de ce Spider-Hero, Spider-Hero Revealed, c'est le petit next que l'on voit, avec aussi une image de Ronin qui lui pète la gueule, enfin qui éclate l'image du Spider-Hero, donc je sais pas, ça a l'air intéressant, j'ai envie d'aller voir la suite vraiment, et puis sortir de ce crossover Infinity pour cette série, et vraiment voler de ses propres ailes. Donc, bye pour ma part. Continuons avec toi, Bruno, qui va nous parler du numéro 18 d'Iron Man, face aux répercussions du mois dernier.
Tout à fait, et c'est écrit par Kieran Gillen avec des dessins de Joe Bennett. Là, les gens qui n'ont pas lu Iron Man, attention, vous allez vous prendre un gros spoil dans la gueule, parce que là, je suis obligé de vous en parler.
Je vois pas comment tu peux faire autrement, de toute façon.
Ouais, donc Iron Man a découvert en fait qu'il avait été adopté, donc Tony Stark, et qu'en fait, il servait de protection pour le vrai fils de Howard Stark, qui s'appelle Arno Stark, qui avait été créé de façon un petit peu... Il avait été ingénieré par un cyborg qui avait aidé Howard Stark dans les années 40 à survivre parce qu'il était censé mourir. Enfin, c'est hyper compliqué. C'est une histoire que Gillen a développée sur un arc en 8 numéros qui était hyper intéressant. Et en fait, donc voilà, on se retrouve avec Tony Stark qui a un frère. Lui, il sait qu'il a été adopté, donc on se doute que bientôt il y aura peut-être des recherches pour savoir qui sont ses vrais parents. Mais voilà, il y a vraiment plein de potentiel à nouveau avec cette série, puisque en fait Arno Stark, c'est un enfant qui est censé être maintenant il est adulte, c'est quelqu'un qui a eu des gros problèmes de santé dans son enfance, donc là actuellement c'est un adulte qui a été caché de la population et qui ne peut pas parler, qui est très faible, qui vit dans un lit, et en fait il se cachait, mais par contre au niveau de son intelligence, il est encore plus intelligent que Tony Stark. Donc là en fait Tony Stark le rencontre, ils discutent et enfin il va pouvoir le faire ressortir et ils vont pouvoir s'associer pour essayer de faire des avancements dans le monde et ils vont décider d'améliorer la vie et c'est hyper ambitieux, ça commence le comics, on est 30 ans dans le futur, on voit un Tony Stark et un Arno Stark qui ont 60 ans et qui ont complètement révolutionné le monde. En créant des bases spatiales, en améliorant, en diminuant la pauvreté, tous les gens sont heureux et tout. Bien sûr, tout part en couille. Voilà, très rapidement, on se rend compte que c'était des prédictions faites par ordinateur et c'est, y a vraiment beaucoup de potentiel. On voit qu'il va y avoir encore une lutte par rapport au cyborg, puisque le grand méchant de l'arc précédent, c'était un cyborg qui était hyper intelligent. Et ils l'ont détruit, mais Tony Stark compte se servir encore des pièces détachées de ce cyborg pour justement développer de nouvelles technologies. Et son frère Arnaud est contre cette idée. Donc il va y avoir un peu une histoire de soulèvement des machines, je sens, qui va arriver. C'est vraiment captivant. Et alors la fin, c'est complètement what the fuck. C'est Green Lantern dans l'univers de Marvel. Donc je vais pas en dire plus, mais ça m'a donné envie de voir la suite. Et j'ai beaucoup aimé ce numéro, donc... Pour moi, c'est un gros bail.
En plus, on a apparemment Kieron Gillen qui joue avec le temps, pour ceux qui se rappellent de la vieille continuité, en tout cas qui connaissent un petit peu l'histoire d'Iron Man. Arno Stark n'est pas un inconnu. Peut-être
d'accord,
que ça
alors
te
ça,
dit
tu
rien.
Vois, moi, je sais pas, ça faudra que je me renseigne. Mais...
Bah, si je te dis Iron Man 2020.
D'accord, ah oui, c'était les fameux okay, qui se passaient dans le futur. Okay.
Mais oui, c'était notamment une mini-série et c'était un fameux Arno Stark qui n'était pas du tout gentil, donc je pense qu'il doit peut-être jouer pas mal avec ça. Ça peut être très intéressant en tout cas.
Mais en tout cas, ce qui a été très malin de la part de Gillen, c'est qu'en fait il a rajouté des informations sur Tony Stark tout en ne changeant pas ce qui s'est passé avant, puisque Tony Stark reste lui-même, il reste ce super-héros hyper intelligent. Mais par contre, voilà, on apprend qu'il a été adopté et qu'il a un frère peut-être aussi intelligent que lui, donc. Non, ça va être cool, il y a du potentiel derrière.
Cependant,
donc, voilà,
je vais peut-être faire un peu le mec qu'on a déjà vu beaucoup, mais
ouais.
Franchement, je suis pas certain que ça change grand-chose sur le personnage au final.
Non, non. Après, voilà, est-ce que peut-être qu'Arno Stark sera un personnage intéressant à développer.
Non, je parle de l'adoption, hein, en fait.
Ah, l'adoption, cool. Ouais. Ouais, bah au final, comme il a été adopté très jeune, ses parents, ils les considèrent comme étant vraiment toujours les Stark, quoi, mais. Mais bon, il y aura peut-être des petites intrigues là-dessus. Mais oui, effectivement, ça va pas changer le monde.
Donc, bye pour ce Iron Man numéro 18.
Ouais,
finalement,
fait,
la série de Kieron Gillen qui aura peut-être mis un peu de temps à démarrer, mais qui devient très intéressante au fil du temps. Tant ouais. mieux, parce que c'était pas gagné, hein, au vu des deux premiers
gagné.
Arcs, surtout.
J'ai quand même un tout petit bémol. On a vraiment l'impression qu'elle est déconnectée de l'univers Marvel, puisqu'on y fait référence à... pas du tout à Infinity, enfin à tout ce qui se passe, les events qu'il a avec les Avengers. Donc on a du mal un peu à placer ça dans la continuité.
Ouais, mais je pense que c'est peut-être un peu comme la série Cap,
ouais,
même
voilà,
s'il y avait
ouais.
une explication pour le début, enfin le premier arc de Remender, mais c'est peut-être pas plus mal. Après tout, si c'est pour nous offrir du bon boulot plutôt que devoir se lier de force à la continuité et faire de la merde.
C'est ça. Donc il y a ce côté, c'est vrai, voilà, il est libre, mais bon, il y a toujours un petit peu ce questionnement de se dire, ah oui, mais là, normalement... il n'était pas censé être allé aider les Avengers ou je sais pas quoi. Mais bon, c'est vraiment très agréable à lire.
Tant que d'ici la fin de l'arc ou au début du suivant, on arrive à replacer ça à peu près à un endroit, histoire de pouvoir au moins avoir un petit point de repère, ça va. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'il nous donne ce petit point de repère à un moment ou à un autre.
Tout à fait.
On va passer à toi, Flo, qui va nous parler du Daredevil Dark Knights numéro 6, début de nouvelle équipe créative pour cette série anthologique.
Oui, le dernier arc en fait, puisque c'est une mini-série anthologique en 8 numéros, donc ce sera un arc en 3, écrit par Jimmy Palmiotti, dessiné par Tony Silas avec un ancrage de Nelson De Castro et une découverture évidemment de Madame Palmiotti, c'est-à-dire Amanda Conner. Alors c'est une histoire en fait policière, un peu polar. Qui se place à Miami, donc on n'est plus à New York, et ça fait plaisir de voir Daredevil dans un autre environnement, un petit peu comme on avait vu
en short.
Chez Greg Rucka, en short, c'est ça, en short et en mocassin. Donc en fait, Matt Murdock, en gros, accompagne un témoin protégé à Miami. Donc ils sont en avion et ils vont à Miami, ils sont accompagnés d'un agent du FBI et ils débarquent tranquillement, ils arrivent à l'hôtel et tout, et là tout va mal parce que ce témoin protégé, en gros, il a vu ce qu'il ne fallait pas voir, il a vu un crime, et évidemment il y a des méchants qui vont vouloir le choper. Enfin, une histoire classique finalement de policière, de témoin protégé qui se fait kidnapper, on veut l'éliminer, voilà, c'est assez classique. C'est très très bien foutu, très drôle en fait surtout, c'est bourré d'action, c'est-à-dire que en gros tout le comic book se passe quasiment dans cet hôtel avec des scènes d'action vraiment vraiment excellentes. Et Daredevil va faire un team-up avec Misty Knight, donc la fameuse... je la connais juste dans les X-Men de Claremont en fait, Misty Knight, mais bon.
C'est Heroes for Hire, Misty Knight, c'est l'ex de Iron Fist.
D'accord, très bien, bon bah voilà, j'en apprends plus, tu vois. Donc Misty Knight et ils font un team-up très sympa, assez sexy en fait, parce que
il y a une grosse tension sexuelle entre les deux.
Ouais, il y a une très grosse tension sexuelle. Bon, c'est
bah, maintenant qu'elle est plus avec Iron Fist, un peu. Hein.
Ouais, bon, c'est vraiment les nanas sont, on dirait que toutes les nanas sont vraiment au pied, à genoux devant Matt Murdock, enfin Daredevil en tout cas.
Tu te rappelles pas qu'elle était dans Fearless Defenders, Flo ?
Mais j'ai pas lu Fearless Defenders.
Oh, dommage.
Bah désolé. Désolé, je sais.
Pas grave. Non,
J'ai du retard, hein. J'en suis qu'à X-Men 121. Donc, j'ai 30 ans de retard encore. Tu vois, bon.
ouais, bien tassé, ouais.
Mais ça vient, ça vient.
40 ans même, en fait.
Mais en bref, c'est vraiment très bien dialogué, c'est très fun. Une histoire assez classique, hein, vraiment, je vous dis dans le déroulement, mais avec des scènes d'action vraiment sympas. C'est très bien dessiné, c'est assez cartoony, c'est un peu du Avenoming dans le genre. Voilà, un petit peu, c'est assez
un peu
fun.
Plus rond.
Un peu plus rond, ouais, que Avenoming, mais c'est assez fun. Très sympa, je connaissais pas ce dessinateur. Ouais, beaucoup d'action, beaucoup de fun, beaucoup de vannes. Il y a une nana à poil aussi, donc c'est rigolo. Daredevil roule des
mais
pelles.
Mais dis donc, Marvel se lâche.
Ouais, ouais, c'est très rigolo, ouais, c'est
on
vraiment
voit des
très
fesses.
Fun. On voit des fesses, ouais. Non, c'est très fun. Je sais pas ce que t'en as pensé, Bruno.
Ah, bah, je suis d'accord avec toi, c'est une lecture très agréable. Ça change un petit peu de. Bah des trucs un peu sombres qu'on a pu voir avec Daredevil. Là, ce team-up avec Misty Knight est vraiment très amusant. C'est frais, comme tu aimes bien le dire souvent, Florent.
C'est fresh.
Donc, voilà, moi j'ai bien aimé. Je suis séduit aussi. Il me tarde de voir la suite.
Je dirais même que c'est un coup de cœur pour moi. Voilà, c'est le meilleur truc que j'ai lu cette semaine. Parce que c'est vraiment frais.
C'est
très fun,
envie,
très drôle. Prenez-le, vous passez un bon moment de lecture très drôle. Très
je vous avouerai que moi j'ai lâché en fait au bout des deux premières pages tout simplement par manque de temps quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de textes. Je me suis dit j'aurais jamais le temps de lire avant l'émission.
Ouais, le début est difficile, mais en fait après oui. Ça part vraiment au quart de tour et.
Ah, c'est
et
pas ouais. Que c'était difficile à lire, c'est juste vraiment le manque de temps avant le début de l'émission. Je me suis dit j'aurais jamais le temps de le finir, alors plutôt que le survoler, je préfère prendre mon temps et ne pas le lire pour cette émission, tout simplement.
Mais vraiment, faites-vous plaisir, c'est une très bonne lecture, très fun. Cette mini, en tout cas, ne déçoit pas, vu qu'on a vraiment des tons différents sur les trois équipes créatives qu'on a eues. Pour le moment, c'est vraiment top.
Et puis justement, si vous n'aimez qu'un seul artiste, vous n'êtes pas obligé d'acheter toute la mini, vous pouvez acheter que son passage. Et ça, c'est quand même super pratique. Donc, quelque chose qui ne sera pas ruineux. Donc, ton coup de cœur de la semaine, Flo, et toi, pour toi, Bruno ?
Un bail aussi.
Un bail aussi.
On va passer un bon moment.
On va continuer maintenant avec notre partie indé. On va revenir vers toi, Bruno, qui va nous parler d'une nouvelle mini-série, justement, par les auteurs, en tout cas les créateurs de cette même mini-série de Daredevil Dark Knight. C'est Painkiller Jane, leur
ouais,
création.
Tout à fait. Et là, ça, c'est mon coup de cœur de la semaine aussi. Donc, Painkiller Jane, c'est écrit par Jimmy Palmiotti, avec des dessins de Juan Santa Cruz. Donc, c'est le retour
que,
de...
Que oui. de d'aura pour ce Jimmy Palmiotti cette semaine.
Bah oui, et puis alors les deux titres sont vraiment écrits de la même façon, c'est vraiment le même ton. Ça m'a plu dans Daredevil Dark Knight, ça m'a encore plus plu dans Painkiller Jane.
Painkiller Jane va à Miami pour défendre ouais. Un mafieux.
Non, c'est pas exactement ça, mais il y a quand même pas mal de choses assez proches. Donc déjà, moi je connaissais pas trop Painkiller Jane, j'avais pas vu la série télé, j'ai pas vu le film.
Oui, alors la série télé, tu vas l'oublier s'il te plaît.
Donc voilà, c'est une création de Jimmy Palmiotti et de Joe Quesada. Donc là, dès le début, la première page, il nous présente le personnage, donc cette nana qui, après avoir été sous couverture, en fait, elle avait été compromise, et du coup, elle avait été droguée et battue à mort. Le cocktail de drogue qu'on lui avait donné, ça lui a en fait développé des pouvoirs qui permet qu'elle est capable de se guérir assez rapidement la moindre blessure, une sorte de facteur auto-guérisseur. Donc elle a un caractère bien trempé, et maintenant elle est un peu... chasseuse de primes, elle bosse avec sa meilleure amie qui est dans la police qui s'appelle Maureen Fernandez. Et donc voilà, c'est un team-up de ces deux nanas. Et là, elle est envoyée par une mission justement de la part de Maureen pour aller protéger une princesse d'un pays d'Arabie qui arrive aux États-Unis et qui, en fait, il y a des tentatives d'attentat contre elle, sans doute pour la kidnapper, pour avoir une demande de rançon. Là c'est vraiment très fun avec justement l'héroïne Painkiller Jane qui à l'aéroport essaye de protéger cette nana mais qui est horrible puisque elle considère tous les gens comme des objets et tout et ça, c'est l'écriture est vraiment très fun Et là, c'est vraiment ça part en scène d'action au blockbuster hollywoodien, c'est la folie. Il y a des explosions partout, il y a des avions qui s'écrasent, il y a des mitrailleuses, il y a l'héroïne qui a son soutif qui se craque et donc elle passe la moitié du comics avec un téton à l'air. Donc c'est très drôle.
Ça rappelle une sombre histoire de Janet Jackson, si ça. Pardon.
C'est ça, ouais. Mais donc c'est très drôle et il y a des mafieux russes à la fin qui vont venir pour essayer de buter cette nana. C'est fun, c'est frais. On a droit en plus à un backup qui lui est dessiné par Sam Lofty, qui là revient plus sur la relation entre Painkiller Jane et sa meilleure amie. Un truc aussi vraiment décomplexé, rigolo et en même temps touchant. Enfin, voilà, j'ai vraiment pris mon pied avec ces deux histoires. C'est un comics oversize pour 4$. Franchement, ça vaut le coup et ça m'a donné envie même de lire les précédentes mini-séries de Painkiller Jane.
Il va falloir chercher pour les retrouver.
Oui, voilà, ça va être un peu compliqué, je pense, mais en tout cas, très très bonne surprise et mon coup de cœur de la semaine, un gros bail. Et graphiquement, c'est hyper solide, hyper sexy. Donc ça va très bien pour ce genre de personnage. Donc voilà, et pour moi. Voilà. Donc j'ai kiffé.
Ouais, le titre, je suis pas sûr que tu l'aies donné, c'est Painkiller Jane, The Price of Freedom.
Voilà, le titre de la mini. C'est partie 1 sur 4.
Ouais, mini en 4, et c'est publié chez Icon, hein, pour ceux qui veulent
chez
savoir,
Icon,
parce que
ouais,
c'est vrai que Painkiller Jane a un historique de publication qui est pas toujours évident. Les premiers
non, ça
sont sortis chez Event Comics.
Ouais, c'est ça, et la boîte de base de Joe Quesada et de Jimmy Palmiotti, justement.
On avait aussi ce pompier super-héros H.
Ouais, mais il y a pas mal de rédactionnels en plus dans le comics qui retracent tout ça. C'est hyper bien fait. Il y a des sketchs à la fin. Il y en a pour son argent vraiment dans ce comics.
Ah, bah c'est une bonne nouvelle. Comme quoi, la boîte Icon n'est pas totalement mort, même si ça virevolte plus qu'autre chose en ce moment. Fut un temps, c'est vrai qu'on avait beaucoup de projets Icon et ces derniers temps, ça s'est un petit peu calmé, un peu trop à mon goût. C'est bien dommage parce que Marvel a un label presque creator-owned. Qui lui appartient un peu, on va dire, et c'est dommage de pas s'en servir un petit peu plus.
Mais bah, surtout quand on voit tous les scénaristes de Marvel qui vont chez Image.
Bah oui, c'est voilà, c'est bien dommage. Ils auraient ce qu'il faut là pour pouvoir les attirer, mais on verra. Peut-être que John Romita, quand il fera son projet Creator Owned, décidera d'aller chez Icon.
Peut-être.
Moins sûr, mais bon. Passons à Image justement dont tu parlais Bruno à l'instant avec la nouvelle série d'un des, enfin l'autre frère Luna, hein. On avait justement Joshua qui nous a sorti Whispers avec un an de retard il n'y a pas longtemps, le dernier numéro est sorti, et bien cette fois-ci Jonathan va faire sa propre série, s'appelle Alex plus Ada numéro 1, une mini en 6 hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Si quelqu'un peut me confirmer,
là,
je sais pas si vous avez l'info aussi, mais
c'est pas indiqué sur le comics.
Non, mais oui, j'ai un doute. Bon, à confirmer, mais je crois que c'est en 6. Alors, c'est scénarisé, dessiné par Jonathan Luna, ainsi que le lettrage. Et pour ce qui est de l'accompagnement au scénario, nous avons Sarah Vaughan qui l'a aidé. L'histoire, c'est simple. On va suivre Alex dans un espèce de monde hyper futuriste, où tout est contrôlé presque par la pensée. Et qui, on va le suivre, on va découvrir cette espèce de monde. C'est vraiment un numéro vraiment introductif. On va le suivre, on va comprendre peu à peu qu'il a eu une grosse déception sentimentale il y a de ça quelques mois. Et que, il a du mal à s'en remettre. Et il y a la scène la plus choc de l'histoire des comics, avec l'équivalent de Tante May qui lui raconte qu'elle a des multiples orgasmes.
Et avec un androïde.
Avec un androïde, et j'ai vomi.
Cette scène était.
C'est à mourir de rire.
C'était à la fois drôle et ça fout le malaise en même temps.
Moi j'ai trouvé ça génial, quoi. Ouais, quand elle lui dit, je vais mourir, mais à cause de multiples orgasmes, moi j'ai trouvé ça excellemment drôle. Surtout sa réaction à lui qui est pitié, je ne veux pas savoir. J'ai vraiment eu l'impression de revoir Peter Parker face à Tante May, quoi. Mais une Tante May qui lui raconte ses aventures. Bref, tout ça parce que donc c'est son anniversaire, c'est son 27e anniversaire, et on voit que il a même vraiment plus envie de voir ses amis, il se renferme complètement sur lui-même, et le cadeau de sa grand-mère va débarquer à la fin, bien sûr, c'est cette espèce un espèce d'androïde comme elle a là, mais version féminine, pour lui, hein, qui lui servira de ce qu'elle veut.
C'est une réelle doll.
Oui, voilà, c'est ça. Ça m'a fait un petit peu penser à certains mangas comme Video Girl High, notamment.
Tout à fait, j'allais le dire, justement. C'est le même pitch.
Bah, notamment en plus avec le design de Jonathan Luna qui tire un petit peu son trait vers le manga, je trouve. Un petit peu. Enfin voilà, moi j'ai vraiment adoré cet épisode. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous.
Je commence ?
Oui, vas-y, je t'en prie.
J'ai trouvé ça vraiment moyen. Alors, il y a en termes d'histoire, c'est plutôt sympa. Les dialogues sont assez catchy. Il y a des choses pas mal dans le dialogue avec la grand-mère qui est vraiment marrant. Après, bon, honnêtement, les dessins m'ont vraiment laissé extrêmement froid. J'ai trouvé ça très moyen.
Tu connaissais peut-être pas trop le style des frères Luna.
Non, je connais pas trop le style des frères Luna et ça me donne pas du tout envie parce que tous les personnages ont la bouche ouverte de la même manière. Les décors sont d'un vide. Alors c'est peut-être voulu, mais honnêtement, ça crée pas du tout d'âme au truc quoi. C'est, je veux dire, le mec il a 27 ans et chez lui en fait c'est rien. C'est même pas une maison témoin. C'est des murs blancs et c'est tout.
Mais je crois que ça va avec la société aussi.
Oui, mais bon, c'est bizarre parce que les gens arrivent quand même à faire des fêtes chez eux et à s'amuser entre amis et tout. Donc, tu vois, tu t'attends à ce qu'il y ait un peu de déco, quoi. Enfin bref, je suis pas du tout rentré dans l'univers.
Il y a le double aspect futuriste pour moi et le fait qu'il soit complètement déprimé. Dû à cette rupture et que justement le mec se.
Voilà, justement, alors, cet aspect-là, j'ai trouvé que ça faisait vraiment très soap. Le mec, mais... oh, il est triste, il est un peu bof bof et tout. C'est bon, je vais, ouais, ok.
Mais, peut-être que moi ça m'a parlé plus, je sais pas. Mais moi en tout cas, enfin, ça m'a vraiment énormément parlé ce truc-là.
Je suis un petit peu entre vous deux. J'ai trouvé ça
bien.
Je sais que c'est difficile. J'ai trouvé ça bien écrit. Graphiquement, je suis plutôt d'accord avec Flo. Moi, je suis pas trop fan de son style. J'ai trouvé le pitch intéressant, même si c'est pas hyper original. J'aime bien par contre tout ce qui est la représentation un peu futuriste, avec tous ces écrans. Il y a beaucoup d'effets de transparence qui sont vraiment bien rendus, je trouve, d'un point de vue graphique. Moi, ce qui m'a juste un peu gêné, c'est que on voit pas le récit vraiment démarrer dans ce premier numéro.
C'est ce que j'ai dit, c'est un numéro
début à la fin, tu sais ce qui va se passer, quoi. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Ultra convenu, quoi.
Ça se termine si vite et avec peut-être pas de piste trop pour la suite vers quoi ça va se tourner. Voilà, c'est étrange, un objet étrange, pas inintéressant, mais voilà, je suis pas hyper emballé non plus.
Bah bon, moi après c'est le fait que j'aime beaucoup aussi ce que font les frères Luna, donc peut-être pour ça aussi que j'ai aimé. Il y a aussi il y a des petites choses hein, que j'ai vraiment apprécié, des petites choses bêtes, mais on voit le personnage principal qui ne parle que quand il ne peut pas faire autrement. Ça amplifie, je trouve, encore ce côté, il se renferme sur lui-même, il contrôle tout avec la pensée, et vraiment il passe plus de la moitié du comic à penser en fait, sans parler. Il y a des pages qui sont vides de dialogue, mais
c'est un effet de mise en scène qui est vraiment sympa. C'est vrai.
Mais c'est tous silencieux. Ces petits trucs-là que j'ai apprécié en fait. Au début, je me disais, mais je comprenais pas trop le principe du mec. Enfin voilà, c'était bleu, c'était de la bulle de pensée. Et c'est peu à peu qu'on comprend, avec notamment ce qu'il y a dans le décor, avec les pubs que l'on voit quand il est dans la rue, etc., qu'on arrive à comprendre comment ce monde fonctionne, avec quelques petites réflexions de personnages aussi. Certains qui disent, il y a hors de question que je m'implante ce truc dans la tête pour contrôler les choses.
Il y a deux, trois pistes effectivement, comme par exemple cette histoire de révolte des machines.
Oui,
à un
aussi,
moment, je me dis, est-ce
exactement.
Que ça va revenir là-dessus? Ça, voilà. Mais
à mon avis, ça n'a pas été lancé pour rien.
Non, ouais, tout à fait.
Après, si vous connaissez pas les travaux des frères Luna, moi, je vous encourage à découvrir notamment la série Girls, une série en 24 épisodes. Enfin, voilà. Si jamais vous connaissez pas, ou Ultra aussi, qui est un de leurs premiers travaux, qui avait fait beaucoup parler d'eux à l'époque. Peut-être que vous trouverez des choses qui vous intéresseront et qui vous permettront de vous acclimater à ce style-là aussi. C'est vrai que pour une première découverte, c'est peut-être pas la meilleure chose. Je sais pas. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est mon coup de cœur de la semaine, honnêtement. Je vous sens totalement dubitatif.
Non, c'était pas mal. Pour moi, c'est un check-it.
Ah, mais je veux pas changer votre note, hein, au contraire.
C'est un petit check-it. Il y a des bonnes idées, mais dans les dessins, je suis resté vraiment froid au dessin, quoi. J'ai trouvé ça très très froid comme comics. Même si c'est voulu artistiquement, j'ai trouvé ça pas beau à regarder.
mais non, t'excuses pas, justement, au contraire. C'est très bien de confronter les avis.
Non mais enchaîne, parce que j'ai un parfait enchaînement.
Passer à la suite, c'est Protectors Incorporated numéro 1.
Un autre truc pas beau à regarder. mon dieu, quelle horreur. Donc c'est le troisième projet chez Image du label Joe's Comics, le label relaunché par Joe Michael Straczynski, après Ten Grand et Sidekick. Et c'est dessiné par Gordon Purcell et colorisé par Michael Attié. Alors, comme d'habitude, ou dirais-je, avec JMS, ça parle un petit peu de super-héros, mais d'une manière un peu détournée.
Je me serais arrêté à ça parle.
ça parle beaucoup, surtout en narration en plus. On y suit en gros les, même pas les tribulations, parce qu'il y en a pas vraiment. On suit le personnage de John Riley, qui est un flic, dans un monde un peu particulier où sont apparus des super-héros dans les années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale. En gros, c'est bien connu, il y a une météorite qui tombe, il y a un premier mec qui trouve la météorite et qui a des super pouvoirs, et d'un seul coup, il y a plein de gens qui développent des super pouvoirs. Ces super-héros, en fait, dans ce monde-là, n'ont pas de super-vilains à combattre, ils ont que des menaces très humaines, parce qu'il n'y a pas de super-vilains, il n'y a que des super-héros. Et du coup, en fait, c'est devenu un petit peu une entreprise de spectacle. Ces super-héros se sont ligués dans une équipe, donc les Protectors Inc, parce que cette équipe est devenue une entreprise. Ils vendent des t-shirts, voilà, ils ont des contrats de pub, et en gros les héros sont plus intéressés à savoir qui a son précaré. Alors lui, il a telle ville, un peu plus hype, etc.
De ce côté-là, ça m'a fait un peu penser à Jupiter's Legacy de Mark Millar, la façon dont c'est mis en scène.
Totalement. Surtout le côté.
Moi, je suis pas le seul. Ça m'arrange.
Surtout le côté deuxième génération de super-héros, etc. C'est là, oui, clairement. Donc, en gros, voilà, c'est ce monde-là vu et raconté par les yeux de ce flic. En gros, c'est un numéro vraiment introductif qui nous raconte,
Je suis pas certain qu'il soit flic, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il est plus avocat.
Si, c'est un flic. C'est un lieutenant détective.
Ah, d'accord, comme je le voyais plaider au tribunal.
Scène du tribunal où il présente des choses, en fait, il présente des trucs à un jury en tant que témoin flic, quoi, qui présente une enquête, un truc comme ça.
J. Michael Straczynski va devoir revoir comment se passe un procès aux États-Unis, parce que ça se passe pas comme ça.
Je lis, c'est ce que j'ai compris en lisant la sollicitation. Sollicitation, d'ailleurs, c'est mon coup de gueule, qui raconte trois fois plus de trucs que ce qui ne se passe vraiment dans le comics, puisque dans ce comics, qui est très introductif, on y raconte juste ça, en fait, un peu cette genèse. Il se passe deux, trois trucs, mais on comprend pas trop où ça va. On sait pas trop. Voilà,
on a un petit doute, notamment sur la fin. Moi, j'ai eu un gros doute, même sur la fin. Je sais pas s'il nous mène en bateau ou pas.
Oui.
Concernant l'identité du patriote, voilà, pour être encore un peu cryptique. Nous mène-t-il en bateau ou pas? Je sais pas.
C'est vrai, mais bon, il n'y a pas grand chose parce que si vous lisez la sollicitation, en gros, ça nous raconte des trucs qui ne se passent toujours pas dans le numéro 1, donc peut-être dans le numéro 2,
numéro 3.
Je déteste
ça. J'ai trouvé ça horreur de ça, mais vraiment, ça m'hérisse le poil. Ça me ferait, mais vraiment, foutre un gros bâche, voire un pass à un truc, quoi.
C'est ça qui m'a donné envie, en fait, la sollicitation, et en fait, ça se passe pas du tout ça. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qui se passe. Je vais pas vous cacher que c'est une déception pour moi. Il y a quand même des bons petits pics, on va dire, aux super-héros sur le côté. La vision de John Riley est quand même très désabusée et assez cynique. Ces super-héros qui se battent entre eux juste pour la gloire et les contrats de pub et qui ont des costumes ridicules. Donc voilà, il y a ces pics là, mais c'est pas très très élégant. L'histoire, pour le moment, elle n'existe pas. Clairement, elle n'existe pas, l'histoire. Et surtout, les dessins sont, j'ai trouvé. Alors c'est un dessin assez old school. C'est voulu sur certaines pages parce qu'on sent que au niveau des costumes, des bagarres, etc., on sent que ce côté old school est voulu. Mais c'est moche, c'est statique. Le trait n'est pas du tout élégant. Les visages sont inexpressifs. Il y a aucune énergie dans le dessin. C'est vraiment très très laid. J'ai trouvé ça encore plus laid que ce que Tom Mandrake fait sur Sidekick. Et Dieu sait que je me mords les lèvres de douleur à chaque fois que je lis Sidekick. Pourtant, c'est bien écrit, mais c'est vraiment moche. Et là, c'est encore plus moche, je trouve. Voilà, désolé. Alors,
je serais pas aussi dur que toi sur les dessins. Je trouve ça juste très moyen. Honnêtement,
ouais,
très moyen.
C'est bof,
juste
c'est très bof.
C'est du projet indé, quoi. C'est le petit éditeur. Ça me paraît cohérent avec un petit éditeur qui n'a pas les moyens de se payer un gros dessinateur. Pourtant, Gordon Purcell n'est pas un débutant. Ouais. Mais en revanche, En revanche, j'ai envie de défendre ce comic à mort. J'ai envie de défendre J. Michael Straczynski parce qu'il recrée son label, parce qu'il va décider de quitter ce milieu mainstream pour faire vraiment les choses qui lui plaisent. J'ai adoré Ten Grand, j'ai adoré The Sidekick, mais là, franchement, je peux pas le défendre. Il y a rien. Franchement, c'est même pas un numéro introductif, c'est l'équivalent d'un 0.1.
Ouais. C'est creux, c'est ça. C'est ça.
Je veux dire, on se fait chier, il se passe des trucs, on nous raconte des choses, mais je veux dire, en termes d'histoire, pour nous lancer un truc, oui, on se fait chier. Il se passe vraiment un truc, on va dire, sur les deux dernières pages, et en comptant le next. La page écrite où il y a écrit next. C'est quand même, là, j'ai quand même l'impression que, faudrait peut-être qu'il fasse quelque chose, qu'il lance peut-être pas trop de séries en même temps s'il est pas capable de les gérer. Alors j'imagine, comme pour toutes les autres séries qu'il a créées sous ce label, ce sont des histoires qui sont prévues pour être en 12 épisodes, à voir s'il y aura une suite ou pas, mais en tout cas une première saison en 12 épisodes. Donc j'imagine qu'il a un point de départ et un point d'arrivée. Le problème, c'est qu'on n'a absolument aucune idée du point d'arrivée ou même de l'esquisse d'un point d'arrivée. C'est ça le souci. Autant sur Ten Grand ou The Sidekick, on a quand même des idées qui seront peut-être fausses, mais on a des idées de ce vers quoi ça va. Là, absolument pas. Donc je suis entièrement d'accord avec toi, je suis hyper déçu, et pour moi c'est à peine un check-it ce truc. Je peux pas encourager les gens à aller voir ça.
Ouais, pareil, c'est vraiment l'ami du check-it. Ça échappe au pass parce que j'aime bien JMS et ces deux autres séries m'ont pas déçu. Alors je me dis,
voilà,
merde.
On a la même raison.
Mais c'est vraiment par attachement à JMS, mais c'est vraiment très moyen et très creux, quoi.
Exactement, c'est exactement la même raison pour laquelle j'ai mis un check-it. Donc, vous pouvez pondérer, si vous aimez pas JMS, c'est un pass, quoi. Clairement. Malheureusement, là, on peut pas, de toute façon, on peut pas tout réussir à chaque fois, encore heureux. Tant pis, hein, dommage. Peut-être son premier échec sous ce label. J'espère que ça n'entouchera pas les trois autres prochains projets qu'il a, dont il reparle à la fin de la série, notamment le retour de Dream Police. Bon, on verra. Mais vraiment, première grosse déception de ce label. L'autre déception étant l'arrêt de Ben Temple Smith au niveau du dessin de Ten Grand. Mais...
J'ai pas eu le temps de lire le numéro.
Moi non plus.
5 qui est sorti.
Mais vu que c'est sorti en retard, ça fait pas partie de mes priorités. C'est con, hein, voilà. Mais aujourd'hui, quand on a énormément de comics à lire pour préparer une émission, on a tous des choix. Moi, un comic qui sort en retard passe directement à la fin de mes priorités. Tant pis. Ils avaient qu'à sortir à l'heure. C'est leur problème. C'est con, mais on est obligé de faire des critères de sélection plus ou moins arbitraires. Tu as fini ce que tu avais à dire peut-être sur Protecteurs Insi, ou tu as envie de rajouter autre chose? Non,
j'ai tout.
Bruno, tu ne l'as pas lu?
Non, mais ça
mais je crois que t'as bien
fait un peu peur. Ça me fait un peu peur.
On va passer à toi justement, qui va nous parler d'une autre sortie, un nouveau numéro 1 encore. De toute façon, chaque mois et chaque semaine, il y a énormément de numéro 1 en indé. Ça s'appelle Drum Hellar, qui avait un ancien titre.
Ouais, donc c'est écrit, dessiné, colorisé par Riley Rosmo, avec Alex Link qui l'aide pour le script. C'est dans la ligne Shadowline de ses comics Image, un petit peu différent, on va dire, un peu space.
Un peu plus adulte aussi.
Ouais, alors c'est un comics, j'ai eu énormément de mal là, à ma première lecture.
Je me permets juste de te couper tout de suite pour préciser l'ancien nom, comme je disais, qui devait sortir dans un autre nom. Ça s'appelle Strange Ways, ça devait s'appeler Strange Ways, donc voilà, si vous attendiez quand on en avait parlé dans les weekly, voilà, Drum Hellar, c'est Strange Ways.
Alors, Drum Hellar, ça fait référence au héros principal, qui s'appelle Drum, et en fait, c'est vraiment un univers fantaisiste, on n'est pas dans un univers réaliste. Moi, c'était un peu mon problème quand je suis arrivé dans le comics, c'est que j'ai cru qu'on était dans un univers un peu réaliste avec juste un personnage un peu halluciné. Non, c'est vraiment de la pure fantasy avec des personnages, par exemple des loups-garous qui existent, des macabres qui parlent et des choses comme ça. Et on suit un enquêteur, un ancien spécialiste de botanique, un ancien botaniste, enquêteur un peu bizarre. C'est comme si Mulder en fait était le dude de Big Lebowski. il a un caractère hyper hyper cool, space et tout. Enfin, Et en fait, là, il est, ça commence le comics.
Il est botaniste, mais il a utilisé beaucoup l'aromathérapie.
Exactement. Mais en fait, c'est énormément ça, puisque ça commence avec justement des plantes hallucinogènes. Ça se termine avec, pareil, il bouffe une autre plante hallucinogène. Et au début, en fait, on a une sorte, le personnage qui a une vision très étrange avec un paon qui sort d'une flaque, qui pond un œuf. À l'œuf, il y a un trou sous l'œuf. Il passe sa tête dedans et il est dans le ciel et il voit un endroit marécageux assez bizarre, enfin c'est hyper space. Et après on voit le héros qui retourne un peu dans sa ville natale, je crois, et il retrouve des ex et tout, on le voit discuter. Il y a pas j'avoue que le niveau de lecture est quand même assez élevé, il y a beaucoup de slang, il y a beaucoup de mots que je ne connaissais pas, pourtant je lis beaucoup en anglais et j'ai dû chercher pas mal de choses dans le dictionnaire.
Ouais, alors, du slang, c'est de l'argot, hein, pour ceux qui ne comprendraient vraiment
donc,
pas l'anglais.
Voilà, déjà.
Mais en même temps, je sais pas ce que vous faites sur le Comics Weekly si vous ne comprenez vraiment pas l'anglais.
Ouais, mais voilà, c'est quand même un niveau de lecture un peu plus élevé que d'autres comics qu'on peut lire de façon générale. Et surtout, c'est tellement barré en plus que ça gêne un peu. Mais il y a du charme et graphiquement, alors c'est vraiment superbe. Là, par contre, j'aime beaucoup le style de Riley Rosmo. Les couleurs sont sublimes, c'est vraiment barré. Il y a un côté, c'est vraiment très joli. C'est hypnotisant. L'histoire est quand même assez difficile à saisir, donc ça c'est quand même, je le mettrais du côté des défauts, même si au final ça a ce côté où ça te prend, t'as envie de vraiment comprendre ce qui se passe, mais voilà, après c'est quand même bien écrit, il y a beaucoup d'humour, le personnage principal a comme sidekick un chat fantôme, voilà, que les gens croient qu'il n'existe pas, mais en fait ils ne peuvent le voir que quand il y a la pleine lune, enfin il y a plein de trucs très très étranges. Voilà, je vais pas dire un bail, parce que, mine de rien, à ma première lecture, j'ai dit, mais c'est quoi cette merde? voilà, je trouvais ça
ah,
très beau,
fois,
alors je vais
posteriori.
Le ouais, mais je dirais un bon check-it quand même, et voilà, après l'avoir relu et en comprenant un peu mieux ce qui se passe, et j'ai envie de voir la suite et de voir ce qui se passe. Donc voilà, c'est un ovni, encore une fois, c'est étrange, c'est très beau, donc un check-it.
À savoir que c'est isolé comme une série régulière et pas comme une mini, en tout cas.
Voilà.
Ou alors j'ai pas trouvé l'info là non plus.
Non, je crois que c'est ça, c'est une série régulière. Et il peut y avoir du potentiel parce que ce personnage, en un seul numéro, il est quand même assez charismatique. C'est juste que l'univers est vraiment totalement barré et très très à base de plantes hallucinogènes.
Eh bien, on va terminer notre partie indé avec quelque chose d'hallucinogène là aussi. C'est la sortie du 4e épisode de Trillium, cette série de Jeff Lemire chez Vertigo. On arrive à la moitié de la mini. C'est une mini en 8, hein, je le rappelle. Alors Jeff Lemire fait tout, même une partie des couleurs avec pour lesquelles il est accompagné de José Villarrubia. On va continuer de suivre le personnage de Nika, qui est toujours amoureuse, et j'ai oublié le nom du personnage de 1927, quelque chose comme ça, 1920 et quelques, qui passe son temps à moitié voyager entre le présent et le futur grâce à ce temple. Je vais éviter de trop spoiler l'histoire. Ça va être vraiment difficile de spoiler l'histoire, mais en tout cas, les choses vont vraiment avancer énormément. On va comprendre un petit peu ce mécanisme de voyage. Enfin, en tout cas, on va avoir une idée de pourquoi il y a ce mécanisme de voyage dans le temps. Ces espèces d'extraterrestres bleus et ces espèces de plantes. On va commencer à avoir quelques idées. Et surtout, la série va arriver à un tournant à la fin de ce 4e épisode. On arrive à la moitié de la série et je n'ai absolument aucune idée de ce vers quoi on va aller par la suite. Et ça, je trouve ça super plaisant. On nous avait teasé le truc comme un espèce de Roméo et Juliette entre deux personnages séparés par presque 3000 ans. Et enfin, 2000 ans en tout cas. Et là, en fait, je sais plus du tout vers quoi ça va. Et ça me plaît, c'est toujours aussi bon. Les dessins de Jeff Lemire sont très bons pour peu qu'on aime son style vraiment indé. La narration est vraiment maîtrisée, moins peut-être d'effets que les épisodes précédents. On n'a pas de narration particulière comme on avait eu dans les premiers épisodes. Mais il se passe tellement de choses dans cet épisode que c'était pas nécessaire. Ça aurait peut-être rendu le récit un peu plus confus au final.
Il y aura bien quand même 8 numéros parce que j'ai juste feuilleté et la dernière page j'ai vu qu'il y avait marqué « The End ».
Mais c'est ça qui est très particulier, justement. Et j'ai vraiment hâte de lire l'épisode suivant, parce que comme je dis, on arrive vraiment à un tournant. Je ne sais pas ce qui va se passer après.
D'accord. Okay.
C'est ça qui ça m'intrigue totalement. Mais oui, c'est très curieux. Et il m'a vraiment pris avec ce récit, et j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir la suite. Il va falloir attendre un mois encore avant que ça sorte, et C'est vraiment horrible d'avoir à attendre un mois pour lire ça, quoi. Mais vraiment génial. J'adore.
Tu le dis avec beaucoup de passion. J'ai pas eu le temps de le lire, mais je suis avec assiduité cette mini et c'est.
Ah, la semaine dernière, le mois dernier, c'était moi qui n'avais pas eu le temps.
Le meilleur truc pour le moment que je lis chaque mois, quasiment. C'est vraiment exceptionnel comme truc. C'est super. Donc, tu m'as donné encore plus envie de. Je crois que ce soir, je vais le prendre. Direct.
Ah bah, moi, de toute façon, c'est ce que j'avais fait. Hein. Le mois dernier, j'avais pas eu le temps de le lire. Tu en avais dit énormément. Vous m'en aviez dit énormément de bien. Notamment avec le fait qu'il fallait retourner le comics où j'étais un peu moins. J'étais moins enjoué. Mais finalement, ça se passe très bien dans la narration. Et je l'avais lu le soir même après l'émission. Et bah là, justement, c'est l'inverse. À vengeance.
Et voilà.
Oui, on prend sa vengeance comme on peut, hein, je sais. Donc, si vous ne l'avez pas compris, c'est un gros bail. Et donc, de Vertigo, on va enchaîner à DC, lien on ne peut plus logique, avec le Zéroyeur qui débarque, dans les pages du Détective Comics numéro 25. Je vais éviter d'oublier des mots. C'est Flo qui nous en parle.
Ouais, c'est écrit donc toujours par John Lehman et dessiné par Jason Fabok. C'est l'avant-dernier numéro de John Lehman sur Détective Comics, enfin, sans compter le 27, Détective Comics 27, où il va participer aussi. C'est un tie-in à Zéroyeur, donc ça se passe au moment de, en fait, la fin du dernier numéro de Batman, où, en gros, il y a un gros shutdown sur toute la ville. Le Riddler a coupé l'électricité, en gros, sur tout Gotham. Et en plus, il y a la tempête du siècle qui débarque. Donc, en gros,
pas de bol à Gotham, quand même.
Il fait pas bon être à Gotham. Et dans ce numéro... Alors pourquoi j'y suis allé parce que c'est un numéro centré sur James Gordon uniquement. Il y a une apparition dans le comics de Batman, mais c'est vraiment que ça pourrait s'appeler
Gotham Central.
Non, pas vraiment. Mais en tout cas James Gordon comics. Et parce que Jason Fabok s'était défendu sur Twitter en se disant merde, les gens gueulent parce que c'est tie-in à Zéroyeur. Mais je vous assure, je me suis éclaté à faire ce numéro. Franchement, lisez-le. C'est le meilleur numéro que j'ai dessiné, je trouve. Et c'était génial. Et donc, je fais, je vais faire confiance à Jason Fabok. Et j'ai bien fait parce que c'est très, très bien. Déjà, c'est très bien dessiné. C'est très sombre. C'est ce que David Finch devrait faire tout le temps. C'est clairement, hein, on va en reparler de David Finch là, juste après. Mais là, c'est très, très beau. Vraiment très élégant, très sombre. Il dépeint parfaitement ce Gotham, où il pleut. En gros, sur tout le comics, il pleut. Hein. Il fait nuit et il pleut, donc c'est vraiment crado. Et en gros, l'histoire, c'est James Gordon qui est dans sa première année à Gotham, qui vient de Chicago, et qui est confronté, en gros, à tous les flics ripoux de la police. Et en gros, il y en a à peu près partout. Il se fait niquer à chaque fois, en gros. Il pense que lui il est bon et finalement il se fait niquer et il manque de mourir et donc ça met bien en valeur la force mentale de Gordon pour se dépêtrer de ce truc et sa conviction énorme en tant que flic de faire le bien et ça dépeint parfaitement aussi les ripoux et aussi les flics totalement désabusés de la police de Gotham, notamment le patron, enfin le chef de la police, le commissaire Loeb. Qui est déjà apparu dans les Detective Comics de Lehman, qui est complètement un mec à la ramasse, quoi. Il a vu sa police, il a vu sa police en gros chuter et il est hyper pied totalement. Et c'est très bien rendu, je trouve. Non, vraiment.
Le choix
vraiment
du nom me fait rire, quoi. Je suis désolé, mais le choix du nom me fait rire. Est-ce que c'est une pique ou est-ce que c'est vraiment totalement le hasard? Ça, il faudrait poser la question à Lehman.
Oui, voudrait-il nous répondre pas, c'est le connaissant Lehman, bon. non, c'est vraiment très très bon. Je vous conseille ce numéro parce que ça montre une autre facette de la Zero Year. Ça donne de l'épaisseur aussi à la Zero Year qu'on va, je pense, plus voir justement dans Batman 25 parce que là, on a des tie-in, mais on voit pas vraiment ce qui se passe. Ça se passe vraiment à la fin du backup de Batman 24, quoi. Donc, c'est pas encore bien implanté. Et là, ce numéro nous... On peut palper l'ambiance assez terrible qui se passe dans Gotham. Donc très très bon, j'ai trouvé ça très bon. C'est un très bon bail pour moi.
De toute façon, Batman numéro 25 que l'on retrouvera la semaine prochaine. Donc voilà, ça permet déjà peut-être de pouvoir faire ses propres théories, ce qui est pas mal, avec une petite semaine d'avance. Mais
Non mais Lehman a bien les personnages, c'est bien écrit et tout, c'est cool. Gordon est vraiment impressionnant dedans, quoi. Donc c'est très cool à lire.
Vu comment tu le dépeins, je dirais qu'il manque plus qu'un anneau vert, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est presque un super. Bah, vu ce qui lui arrive, c'est presque un miracle, parfois, ce qui lui arrive.
Non, mais vu que tu parlais de vachement de volonté et d'abnégation pour continuer, il ça me donnait vraiment,
c'est vraiment
cet aspect-là.
Un flic avec des convictions, quoi. C'est...
Mais franchement, j'aimerais bien voir un Elseworld où c'est James Gordon qui récupère l'anneau.
Ah, ça, oui, ça pourrait le faire avec sa moustache.
Ça pourrait être sympathique, si c'est bien écrit, bien sûr, si c'est pas juste du fanservice. Ouais. Donc, j'imagine que c'est un gros bail.
Ouais, très bon bail, très bon bail, vraiment cool. Un des meilleurs numéros de Lehman, je trouve. Très bon.
Ah, pas longtemps avant la fin, c'est dommage, mais... Enfin, en même temps. Passons à la suite, c'est le Forever Evil numéro 3, Bruno, ce gros event qui continue.
Oui, c'est scénarisé par Jeff Jones, avec des dessins de David Finch. Et donc dans ce numéro, déjà ça commence avec des explications. On va enfin découvrir dans les trois premières pages ce qui s'est passé à la fin de Trinity War et comment en fait la Justice League a été battue. Donc c'est expédié en trois pages. Donc après...
idée très intéressante, je vais le dire tout de suite, idée très intéressante et meilleur passage du comic pour moi.
Ouais, bah moi j'ai pas trop aimé non plus cette idée.
Ah bon?
Il y a du potentiel, mais j'ai trouvé ça un peu abusé perso.
Mais je me suis dit que c'était assez original pour être sympa justement.
C'est original, mais je voyais pas trop comment ça calait avec le Justice League of America.
Moi aussi.
Voilà, mais bon, c'est original. Après en fait, ça c'est la continuité du précédent numéro. C'est on va suivre surtout Lex Luthor qui maintenant est accompagné de Bizarro Superman et il essaye de rassembler un groupe de personnages pour l'aider à contrecarrer le Crime Syndicate. Voilà, ça prend également la suite du Justice League du précédent Justice League puisqu'on a la suite du combat entre Ultraman et Black Adam. De la baston, c'est pas hyper bien écrit, c'est hyper... Alors là, franchement, je suis désolé, mais David Finch, il est vraiment pas bon hein, sur ses numéros.
Enfin, la double splash page du départ est pas mal.
Ouais, le début, ça va, mais alors par la suite, que ce soit le combat entre Ultraman et Black Adam, c'est dégueulasse.
Les personnages sont trop lisses pour du Finch.
Toutes les scènes avec Lex Luthor, je le trouve hyper moche, Luthor, à chaque fois. Et je suis assez déçu. Et j'avoue que j'en ai un peu marre de cette histoire d'éclipse avec la lune.
Je croyais que t'allais dire j'en ai marre de Forever Evil au bout du troisième.
Non, mais en fait c'est vraiment les montagnes russes quoi. Parce que le numéro de Justice League je l'avais bien aimé, surtout quand on voyait ce qui se passait sur la Terre 3. Mais sur la Terre principale, ce qui se passe avec Luthor, il y avait du potentiel, mais j'aime pas trop la direction que ça prend. C'est assez facile en fait. Voilà, il va rassembler une équipe de méchants et il va essayer de se battre contre le Crime Syndicate. Mais c'est assez poussif et voilà, et graphiquement ça m'a déplu ce numéro, donc je sais pas, vous en avez pensé quoi vous?
Comme toi, montagne russe pour moi, premier très décevant, le deuxième beaucoup mieux, le troisième pourtant le deuxième nous promettait quelque chose d'intéressant, le troisième fait plouf. Alors ça reste une totale supposition de ma part, donc n'y voyez pas plus que ce que ce n'est, mais je me demande si le départ de Brian Buccellato et Francis Manapul de Flash n'aurait pas des liens avec ce qui se passe dans ce numéro. Notamment vis-à-vis de Captain Cold. Mais le fait que Jeff Jones arrive et dise « hop, on va modifier ça. »
Je sais pas, parce qu'il gère aussi la mini Rogue's Rebellion. Hein.
Oui, peut-être. Je sais pas.
Mais sur Flash encore.
Ouais, il n'en reste plus qu'un sur les deux et puis bon, ils sont partis. Bon, c'est vrai, certes, ils ont un autre gros projet, d'accord, mais voilà, ils avaient imposé quelque chose, ils avaient proposé des modifications sur des personnages qui étaient peut-être un peu durs à passer, mais que moi j'avais fini par accepter et j'avais trouvé ça finalement pas mal. Et là, Jeff Jones arrive et décide de tout changer en Chief Creative Officer qu'il est, quoi. Je trouve ça un peu malvenu, en fait.
J'ai pas lu les flashs, donc je peux pas. C'est vrai que là, j'ai pas pu saisir le truc.
Tu vois, même si tu n'as pas lu les flashs, tu as vu ce qui arrive à Captain Cold, tu comprends ce qui s'est passé en fait. Et ils avaient imposé un petit peu ça, et tu te demandais d'où ça sortait. Moi, j'avais trouvé ça un peu bizarre à l'époque. Je me suis dit ça me paraissait bizarre. Puis finalement, c'était pas si mal comme idée. C'était bien amené, et le fait que ce soit détruit. Alors, est-ce que ce sera pas changé d'ici la fin de l'event aussi hein? Peut-être qu'on reviendra encore en arrière sur ce que Jeff Jones a écrit. Mais je sais pas, on dirait qu'ils savent pas quoi faire de ces personnages.
Moi, j'ai trouvé en fait le numéro effectivement Montagne Russe. En gros, dans Forever Evil, il y a des passages comme c'est un peu un patchwork de plusieurs endroits où l'action se passe. J'ai choisi les trucs que j'appréciais. Moi, la partie là, mais qui du coup est plutôt longue dans le numéro avec les rogues, j'ai pas trouvé ça passionnant du tout. Vraiment.
Bah, Jeff Jones a perdu de sa superbe pour écrire les rogues, en tout cas.
J'ai trouvé ça vraiment chiant, alors que les passages avec Luthor, je les trouve efficaces. Bon, la fin est un peu téléphonée, un peu, ça fait un peu blockbuster, quoi, mais bon. Mais globalement, les passages avec Bizarro et Luthor sont assez cool, je trouve. Mais le problème, c'est que, voilà, là, pour le coup, j'ai été déçu que une bonne partie du comics soit centrée sur les rogues, parce que j'ai trouvé ce passage vraiment chiant, et donc ça m'a gâché ma lecture, quoi. Il y avait six bonnes pages dans le comics, quoi, pour moi.
C'est d'autant plus dommage parce que Jeff Jones tenait les rogues tellement bien à l'époque où il écrivait Flash. Je veux dire, qui mieux que Jeff Jones pouvait écrire les Rogues ?
Ouais, mais c'est peut-être la frustration, justement, parce que c'est plus vraiment ses Rogues. Hein.
Ouais, c'est peut-être la frustration de faire de la merde aussi, non ? Je sais pas. Parce que franchement, on peut pas dire qu'il soit très bon depuis qu'il est sur le New 52, depuis qu'il est chef creative officer. Hein. Je sais pas. Bah, je suis tellement déçu par ce monsieur, moi qu'il est autant adoré et autant adulé. Voir descendre à ce niveau-là d'écriture, ça me déçoit profondément. Il se bendicise, je trouve. Et c'est franchement une insulte venant de ma bouche.
Des hauts, des bas, quoi.
Vas-y, Flo.
Non, juste un mot sur les dessins. Bon, je parlais de Jason Fabok juste avant. J'aurais bien aimé que Jason Fabok dessine Forever Evil. Ça aurait eu beaucoup plus de classe, parce qu'il y a des hauts et des bas aussi sur les dessins, quoi. Il y a du David Finch correct et du David Finch, bon.
Oh, cette page très de moyen. Fin, quoi. Non seulement la page de fin est nulle, mais en plus elle est tellement moche pour du David Finch.
Ah,
surtout quand tu compares avec,
avec la
première splash, quoi.
La première
tellement jolie à côté.
Luthor, on dirait un cancéreux anorexique dans une armure.
Totalement. Totalement.
C'est trop bizarre, quoi.
Puis attends, excuse-moi. Regarde la gueule de Cold et la gueule de Bizarro, c'est à peu près les mêmes.
Et puis quand on compare avec Ivan Rice qui avait montré Ultraman versus Black Adam, c'était hyper péchu, hyper classe.
Ça avait putain de...
Alors là, là tu vois le truc par Finch, c'est hyper moche.
Il y a une chose dont on n'a pas parlé quand même, Batman. Sérieusement, il pouvait pas lui foutre la paix et nous le virer pendant 7 mois. Non, fallait que Batman soit là. Surtout qu'en plus, non seulement il est hyper verbeux, il est hyper mal écrit, et il sert à rien.
Il a trouvé un tunnel. Mais,
ah, puis alors... l'annonce du prochain épisode me donne encore plus envie de vomir.
Ouais, mais en même temps, ils ont décidé de faire un truc avec Nightwing, donc ils sont obligés d'avoir Batman dans la sauce, quoi.
Je veux dire, c'est Forever Evil, on est obligé de se liguer contre le Crime Syndicate, et qu'est-ce que tu vois qui est annoncé pour quand même le numéro qui est censé être le milieu de Forever Evil, encore quelque chose qui n'a rien à voir avec le Crime Syndicate, quoi.
Ça n'avance pas. Déçu, ouais. Par ce numéro, j'ai une petite pensée pour un pote qui a appelé Forever Evil Forever Débile, et voilà, il a pas tort aussi pour certains. C'est vrai que sur certains moments c'est un peu débile. Le coup de cette lune là, moi j'en ai ras le cul.
C'est vrai que c'est un peu chiant à la fin.
C'est hyper irréaliste, quoi. Enfin.
Mais de toute façon, déjà le monde devrait être détruit. Hein.
Voilà.
Oh là là, j'ai fait bouger les marées, c'est pas grave. Et puis dans 4 mois, on n'en parlera même plus, hein, des conséquences de ça. C'est ça qui est un petit peu... Bon, enfin, de toute façon, c'est le comique, hein, en général. Ouais. New York a été détruit 150 000 fois chez Marvel.
Donc un petit check-it pour moi, en tout cas.
Ouais, pareil. Ouais.
Moi, je suis entre le check-it et le check-it, moi. J'ai hésité en mettant la note.
Pareil, cool, toi.
Voilà. À prendre avec des pincettes. Ça veut rien dire. Passons aux répercussions de Lights Out dans les pages de Green Lantern numéro 25. Scénarisé par Robert Venditti, dessiné par Billy Tan, ancré par Rob Hunter, et Hal Jordan, en tant que chef du corps, va prendre une décision radicale. Tous les porteurs d'anneaux vont devoir utiliser la lumière à bon escient, sinon ils seront, ils seront emprisonnés.
Dans des prisons qui restent encore à reconstruire.
Ouais, mais c'est Mogo, il va les...
Des lianes.
Il va les fister avec des branches. Voilà les nouvelles Science Cell. Tu seras sur un pic et tu bougeras pas. Que raconter d'autre ? Certains Green Lantern, c'est ce que l'on voyait à la fin de l'anneau numéro 2 de la semaine dernière, certains Green Lantern ont décidé de ne pas reprendre l'anneau, en tout cas d'éviter de s'en servir au maximum. Et grosso modo, Hal Jordan déclare la guerre à tous les autres corps. Plus ou moins, Hal Jordan devient un gardien. C'est et où ensuite il partira avec Kilowog chasser justement cette cette Violet Lantern qui s'était échappée lors du crossover. Comment dire ça le plus simplement du monde, hyper déçu.
Ah ouais, t'avais pas l'air emballé là.
Hyper déçu. Non non, franchement hyper déçu. Réaction de con de la part d'Al Jordan, absolument pas logique venant de la part du personnage. Robert Venditti nous emmène vers quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Je veux dire, on a viré les gardiens pour 4 numéros plus tard repartir dans le même schéma. À quoi ça sert? Ben voilà. Pareil, pour moi, Robert Venditti, c'est les montagnes russes sur Green Lantern. C'est bien, pas bien, bien, pas bien, bien, pas bien. C'est vraiment dommage. Je sais pas quoi penser de ce numéro. J'attends de voir la suite quand même, voir où ça va nous emmener. Et surtout, j'attends les autres séries de la franchise Green Lantern. Notamment New Guardians, pour voir où ça va vers quoi ça va partir, mais j'ai des gros doutes concernant le futur de la franchise post Lights Out. Je suis le seul à l'avoir lu.
Ouais, oui.
Ah, malheureusement, j'aurais pas pu confronter mon avis avec les vôtres, voir si c'est moi qui suis totalement désenchanté ou ou si c'est non ou si c'est une réaction pour tout le monde. Bref, check it, à peine un check it. Franchement déçu. Voilà. On va terminer notre section de review de la semaine avec la sortie du Action Comics numéro 25. Une fois de plus, Taïn à Zero Year, c'est Flo qui parle de ce Action Comics numéro 25. Une fois de plus, Taïn à Zero Year.
Oui, donc Taïn à Zero Year. Voilà, comme ça c'est dit. Et c'est aussi
pas Taïn à Zero Year par ailleurs.
C'est par ailleurs le premier numéro de Greg Pak et Aaron Cooder sur Action Comics, après l'intérim de Scott Lobdell. Donc on a, comme c'est Zero Year, on a un petit goût du Action Comics de Morrison, puisque ça se passe dans le passé, avec un Clark Kent qui est en t-shirt, qui n'a pas encore son costume définitif. Et on va s'intéresser, en gros, à un Superman qui se cherche un petit peu et qui veut prouver qu'il est très fort. Il teste la puissance de ses pouvoirs, en fait.
Tu aimes mes muscles.
Voilà, c'est ça, il bande les muscles. Cet épisode va s'intéresser pas mal à Lana Lang aussi, puisqu'elle va avoir un rôle assez important. Lana Lang qui quitte Smallville pour partir un petit peu à l'aventure et qui va se retrouver à bosser sur un super tanker pris en pleine tempête pendant justement la Zero Year. Superman va vouloir un petit peu, sans savoir qu'il y a Lana Lang sur ce bateau, tester ses pouvoirs et dire je peux faire le bien, je peux m'en occuper de ce truc. Et voilà. Et ça va être une aventure. Voilà, c'est le principe Zero Year, c'est juste Greg Pak fait une histoire dans le passé et c'est un petit prétexte à une aventure assez one shot. Il y a peut-être une piste à la fin sur la suite de son run, mais pour le moment ça fait un bon one shot en gros. D'une aventure de Clark Kent qui m'a, ma foi, plutôt plu.
Ah bon ça... Ah, parce que je sais pas, ça avait l'air... Enfin, t'avais pas non, l'air super enjoué, mais ça me paraissait super chiant aussi, mais...
En fait, oui, le pitch est chiant, mais c'est bien écrit, je trouve. Lana Lang a une personnalité assez pétillante et c'est une femme assez... une jeune femme assez forte et avec un putain de caractère.
C'est cool, ouais.
Qui est bien écrite et Clark Kent est bien écrit aussi, donc moi ça m'a plu, même si ça a pas tellement de conséquences. J'ai trouvé Staline cool, bonne lecture. Et Aaron Cooder, ouais. J'aime bien, je pense que ça va cliver un peu au niveau du style, mais je trouve ça assez sympa. C'est un peu un Romita qui sait très très bien dessiner.
c'est vrai que c'est très solide. Aaron Cooder, j'aime pas toujours tous ses numéros, mais celui-là je le trouve vraiment très très correct. Et,
c'est un style, c'est vraiment un style. Notamment ses visages, ses personnages sont.
Il y a beaucoup de détails dans les décors. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans ses dessins. Je suis d'accord avec toi. La Lana Lang qui est proposée par Greg Pak, elle est vraiment très intéressante. C'est une femme forte, une ingénieure et tout. Qui en plus sait que Clark est Superman, ça on le sait dès le premier numéro, enfin dès la première page. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Il y a quelqu'un d'autre qui connaît son pouvoir. Donc est-ce que Lana Lang existe toujours actuellement dans la New 52? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils reviendront là-dessus plus tard. Et alors en fait c'est surtout un gros pied de nez moi j'ai trouvé à Man of Steel, puisque là au fait on a un vrai Superman qui voilà il a des pouvoirs, et il s'en sert pour aider les gens. Il attend pas d'avoir 33 ans pour aller sauver Metropolis, donc je trouvais ça cool. C'est vraiment un héros, c'est vraiment le vrai Superman auquel on pense. Un mec, il a des pouvoirs, il s'en sert pour aider et faire ce qu'il peut pour améliorer la vie. Et moi, j'aime bien. C'est comme ça que je le considère, Superman. Donc, j'ai trouvé ça cool.
Ouais, voilà.
Donc, finalement, vos notes, si vous n'avez rien de plus à rajouter. Un petit bail pour toi, Bruno, Flo ?
Ouais, c'est un petit bail. J'avais mis Check It, mais finalement, c'est un petit bail. C'est vraiment plaisant. Et bah, Greg Pak ne déçoit pas vraiment. Il sait bien écrire. Après, là, si vous voulez savoir s'il a fait ses preuves sur Action Comics, on peut pas savoir là parce qu'il n'y a pas de fil rouge pour le moment. Donc, on attendra le mois prochain pour voir ce qu'il va développer dans son run. Mais sinon, c'est vraiment sympa.
Très bien. Bah, c'est tout pour nos reviews. On va passer maintenant à la liste des TPB sortis cette semaine. On va essayer de faire vite parce qu'on a une très grosse liste. On va commencer par DC et Vertigo. Django Unchained sort en hardcover au prix de $25. L'adaptation du film de Tarantino, surtout mise en scène par les dessins magnifiques de RM Guerra. Rien que ça, ça vaut l'achat.
Ouais. Alors, malheureusement, il fait pas tous les numéros, mais on va dire la moitié. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le script complet, à savoir qu'il y a quelques scènes supplémentaires par rapport au film. Donc c'est intéressant pour les fans du film.
C'était une mini en 7 parties. Je sais pas si Urban a prévu déjà de le sortir, mais à mon avis...
pas d'infos pour l'instant.
On devrait peut-être avoir ça en français bientôt. Continuons avec du vieux, cette fois-ci chez DC. Judas Coin sort en TPB au prix de $15. Une vieille histoire de Walter Simonson datant des années 80, fin des années 80 si ma mémoire est bonne, qui va suivre justement la pièce de Judas, une des pièces de Judas qui a une répercussion sur l'univers de DC, un thème un petit peu abordé avec Phantom Stranger actuellement. Pour les fans de Walter Simonson qui ont envie de découvrir du vieux Walter Simonson sur du Batman, puisque c'est une histoire de Batman, même si ça ne dit pas son nom.
Ouais, ça a l'air intéressant, je connais pas.
Passons à un gros morceau, un des premiers gros morceaux de cette semaine. Sandman Omnibus volume 2 sort au prix de $150. C'est la fin de la série de Neil Gaiman, Sandman en Omnibus, cette grosse version super belle, super intéressante, qui vous permet d'avoir tous les épisodes sortis en deux tomes. Ça reprend les épisodes 38 à 75, plus le Vertigo Jam numéro 1 et le Vertigo Winter's Edge numéro 3, qui avaient des petites mini-histoires de Sandman à l'intérieur. Énorme cadeau pour la fin d'année.
Tout à fait,
immanquable.
Flo, tu l'as pas déjà commandé ?
Non, je la suis en français. Donc, quand j'aurai tout en français, je commanderai peut-être en VO aussi. Mais... ça coûte cher quand même. Mais très belle édition et un très beau bouquin. Il n'y a pas de dust jacket, en fait. C'est directement imprimé, gaufré, un peu ambiance vieux bouquin. C'est vraiment une belle édition.
Continuons dans le vieux en passant chez Dynamite maintenant. Pour les fans de Pulps, nous avons deux sorties cette semaine. Mark Waid Green Hornet, le premier TPB, sort au prix de $20. Mark Waid qui va faire une histoire sur le Green Hornet, un personnage pulpy s'il en est. Et puis nous avons aussi la sortie du deuxième TPB de Spider, toujours scénarisé par David Lee, avec les épisodes 7 à 12, autre personnage pulpy de chez Dynamite. Passons maintenant à Fantagraphics qui nous sort une édition assez intéressante de Peanuts Every Sunday Hardcover des années 52 à 55 qui va reprendre les strips que l'on avait le dimanche, uniquement d'ailleurs le dimanche pour Peanuts, mais cette fois-ci au lieu de les republier en noir et blanc tel que ça a été fait depuis des années, ils reprennent les couleurs d'origine qu'il y avait dans les pages des journaux à l'époque. Donc pour ceux qui ont envie de découvrir les strips de Peanuts du dimanche tels qu'ils étaient au départ, c'est vraiment le tout début 1952-1955, c'est au prix de $50. Continuons avec autre chose maintenant, dès que ça veut bien se charger. Voilà, chez Image, Aphrodite 9 Rebirth, le TPB sort chez Image et Topco notamment. Retour de ce personnage emblématique des années 90, cette fois-ci scénarisé par Matt Hawkins et dessiné par Stepan Sejic. Au prix de $10, un petit prix qui reprend les 6 épisodes de la mini.
Comme d'habitude,
très très beau, très très joli. Continuons avec, toujours chez Image, la sortie du deuxième TP de Black Acre avec les épisodes 6 à 11. Très bonne série là encore. Je fais juste mentionner que les sorties, puisqu'on a une très longue liste. Continuons avec Invincible Universe, volume 1. Les 6 premiers épisodes de cette série qui se passe dans l'univers d'Invincible, comme son nom l'indique, hein, bien sûr, c'est au prix de $17. Je le précise maintenant, puisque comme Invincible a énormément de retard en France, on ne sait pas quand ça sortira, si ça sortira un jour d'ailleurs. Et enfin, pour terminer, chez Image, la sortie du 3e TP de Manhattan Project au prix de $15. Très bonne série, n'est-ce pas?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait, très très bien.
Je sais que
très
tu bien. La suis toujours, hein, son série de Jonathan Hickman et
Nick
Peter.
En français, allez-y.
En espagnol et en allemand aussi, puisque tu veux vraiment que ça s'achète de partout.
Voilà.
Passons chez Marvel maintenant. Autre omnibus de la semaine au prix de $75, c'est Avengers West Coast Omnibus Volume 2 avec les épisodes 17 à 41 de West Coast Avengers ainsi que l'annual numéro 2 et 3, le Avengers Annual numéro 16, le Fantastic Four numéro 19. Je sais pas pourquoi d'ailleurs il y a le 19 de publié et le Doctor Strange de 53. On a beaucoup de dessinateurs et de scénaristes, hein, qui sont passés sur cette série. Cette deuxième équipe d'Avengers à l'époque qui était justement basée sur la côte ouest avec notamment au casting Hawkeye, Moon Knight, Iron Man, Tigra, Mockingbird, plus tard la Sorcière Rouge, mais je sais pas si elle est déjà arrivée dans l'équipe à ce moment-là. En tout cas, pour ceux qui ont envie de redécouvrir cette série des années 80, qui était très très bonne, qui avait été publiée aussi un petit peu en français dans les pages de Titan, si ma mémoire est bonne, si je dis pas de bêtises. Et personne ne va pouvoir me corriger.
Ah bah là non. Oui.
Alors là non.
Autre gros omnibus qui ressort cette fois-ci, hein, c'est une nouvelle édition puisque totalement out of print, c'est le Daredevil par Miller et Johnson. C'est au prix de $100 avec les épisodes 158 à 161 et 163 à 191 ainsi du matériel de What If numéro 28 pour redécouvrir les travaux de Frank Miller et Klaus Jensen sur le personnage de Daredevil, un run qui a énormément marqué le personnage.
C'est un immanquable, c'est à lire, ouais. À posséder absolument. C'est,
si vous ne l'avez pas, voilà.
Personnage, c'est vraiment, ça fait partie des plus grands runs de l'histoire du comics, donc... Allez-y.
Nouvelle édition, hein, à ma connaissance, il n'y a pas de nouveau matériel, donc si vous avez déjà l'édition, une première édition, n'achetez pas celui-ci, c'est vraiment juste parce que c'était out of print. Marvel First TPB volume 1 1980 sort toujours dans cette gamme de Marvel First. Ils avaient fait les années 70, ils passent aux années 80. Ça vaut $35. Ça va vous permettre de retrouver les origin stories de pas mal de personnages ou d'équipes qui ont débarqué dans les années 80. Alors, entre autres, hein, je vais pas tous vous citer, mais on va retrouver du Hercule, Wolverine. La mini-série, hein, bien sûr, Vision de Scarlet Witch, mais aussi Alpha Flight, Kaisar, Cloak and Dagger, Falcon. Alors, que des numéros 1. Donc effectivement, c'est juste du matériel teaser, mais ça peut donner une idée de ce qui se faisait dans les à l'époque et surtout peut-être découvrir de nouvelles choses que vous auriez ratées, que vous auriez envie de lire. Ça s'appelle Shield Origins TPB pour la suite, c'est à $8 avec une grosse cover Agents of Shield dégueulasse qui va reprendre là c'est vraiment pour faire du fric, hein. Honnêtement, même si c'est pas très cher, vous avez Battle Scars numéro 6, Secret Avengers numéro 1 tout récent, Avenging Spider-Man 2021 et du matériel de Strange Tales numéro 135. C'est vraiment pour découvrir le Shield pour ceux qui ne connaîtraient pas le Shield et qui vont venir aux comics grâce à la série télé s'il y en a. Je le mentionne parce que là, c'est du foutage de gueule.
Mais c'est pas cher. Et puis, l'arc de Avenging Spider-Man est très intéressant. C'est bien dessiné.
Franchement, pour les gens qui viennent de la série télé Agents of S.H.I.E.L.D., surtout avec le début de Secret Avengers, qui est extrêmement compliqué,
c'est
je suis
c'est
pas clair. Certain que ce soit la meilleure idée.
C'est
Battle,
très
Scars,
bizarre,
Battle Scars, numéro 6. Enfin bon. Autre TPB pile poil dans l'air du temps, c'est Thanos, hein, on en bouffe en ce moment du Thanos ou du Thor, et bien là c'est Thanos Redemption au prix de $35, la série en 12 épisodes de Jim Starlin sur le personnage de Thanos. Si vous voulez en savoir un peu plus, c'est écrit par le maître himself, hein, quand même, de tout ce qui est cosmique chez Marvel. Enfin, chez Oni Press, nous avons Scott Pilgrim en version couleur, le volume 4, qui sort au prix de $25 pour ceux qui auraient raté les premières éditions ou qui ont envie de redécouvrir cette série, cette fois-ci complètement recolorisée, puisque c'était une sortie noir et blanc, je le rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout la série.
Ouais, surtout que c'est fait avec beaucoup de goût. Très bien fait, cette colo.
Passons maintenant à des idées de cadeaux de Noël. On vous en avait parlé en intro. Quatre petits trucs ont retenu mon attention cette semaine. Si vous voulez déjà commencer à préparer vos cadeaux, le Doctor Who Essential Guide to the 50 Years of Doctor Who, qui va reprendre un petit peu l'ensemble de la carrière des 50 ans de ce docteur. C'est au prix de $20, hein, un petit bouquin qui permettra peut-être d'en savoir un petit peu plus, ou en tout cas de permettre à certains de découvrir cet univers qu'ils ne connaissent pas forcément.
Ouais, c'est très bien fichu, j'en ai eu à la boutique et ils sont partis comme des petits pains.
Donc, comme quoi ?
Ouais, non, c'est vraiment très sympa, une petite encyclopédie vraiment cool. Sachant qu'il y a eu aussi un Doctor Who The Vault, qui lui est un peu plus cher, qui est à $50, mais qui est vraiment très très beau aussi pour les fans, donc il y a pas mal de choses qui sortent là pour les 50 ans.
Autre petit projet qui est sorti apparemment d'après la date que je vois il y a un mois, mais qui est resollicité cette fois-ci, en tout cas sur la liste que j'ai trouvée, s'appelle Official DC Super Hero Cookbook. Ça vaut $19. Un peu plus de 50 recettes de gâteaux, d'apéritifs, etc. aux couleurs de DC. Voilà, un objet un petit peu un petit peu étrange. On a des recettes de salades, de sandwichs, de boissons ou de desserts à l'effigie de super-héros DC pour faire avec vos enfants notamment. Ça peut être très intéressant.
Le burger Superman ou un truc comme ça.
Ah, je sais pas. En tout cas, sur la couleur, on voit des nachos, on voit des nachos Superman et un gâteau Batman avec la batte ceinture autour. Ça a l'air assez marrant. Ben voilà, pour partager avec vos enfants, peut-être si vos enfants aiment faire la cuisine, pourquoi pas. Et qui sait ensuite aller leur faire lire des comics. Autre chose assez marrante pour Noël, s'appelle Wit and Wisdom of Tyrion Lannister, pardon, en hardcover. Ça vaut $18 et ce sont les réflexions de Tyrion Lannister, ses petites pensées qu'il donne à tour de bras dans la série Game of Thrones. La série roman notamment, c'est écrit par George R.R. Martin lui-même. Voilà, c'est un petit livre assez marrant où on va retrouver tout un tas de petites pensées. C'est vraiment le petit cadeau pour les fans de la série Game of Thrones. Et enfin, un bel objet pour terminer cette section TPB au prix de $50 s'appelle Marvel Store Dark World Art of the Movie, qui va reprendre tout un tas de photos de tournage et de tout un tas d'autres choses concernant le film. Si vous avez beaucoup aimé le film Thor The Dark World, tu en avais justement à la boutique, Bruno.
Ouais, et encore une fois, hein, c'est un très beau artbook avec beaucoup de. Enfin, comme le film en plus est très réussi au niveau visuel. Il y a pas mal de choses sur les costumes, sur les décors, sur Asgard. Donc non, vraiment, c'est un beau cadeau à faire pour les fans du film.
Vous aurez aussi à l'intérieur des interviews du cast ainsi que de l'équipe dirigeante du film. Voilà, si vous voulez vraiment en savoir plus sur le film ou avoir un très bel objet chez vous. $50, c'est un peu cher, mais voilà, ce sont des projets que sort Marvel à chaque fois. C'est tout pour cette émission. Voilà, j'espère que ces premières idées de cadeaux de Noël vous auront plu. On essaiera de vous en dégoter d'autres hein, tout au long de ces deux derniers mois. Enfin, peut-être, on va peut-être s'arrêter avant la fin du mois de décembre, mais voilà, si ça peut aider à peut-être faire des cadeaux, pourquoi pas. Et des fois, on passe à côté de certaines petites choses. Je vous avouerai, je me laisserai bien tenter par le cookbook quand même. C'est assez con pour me plaire, ce genre de truc. On vous remercie, comme d'habitude, de nous avoir écoutés jusque-là. On vous souhaite une très bonne semaine. D'ici là, vous nous retrouvez sur Facebook, sur Twitter. Bien sûr, vous nous envoyez des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr et vous retrouvez toutes les anciennes émissions sur le site ou sur iTunes. Merci à vous et à la semaine prochaine.
Ouais, à très vite. And you're heading up to Wrecking Brisbane Bridges.